Avis critique.
Raphaël Bourgois. Les idées au banc d'essai, Avis critique explore toutes les disciplines et les indisciplines. Ce soir, comme chaque semaine, deux essais sous les feux de la critique, deux livres pour repenser le vivant. Avec « Qu'est-ce qu'une plante ?» publié au Seuil, Françoise Burga propose un essai sur la vie végétale contre le confusionnisme ambiant. Face à la multiplication et au succès des livres sur la vie secrète des arbres, la communication végétale ou le cri de la carotte, la philosophe entreprend un travail de distinction. Elle revient ainsi à la définition du vivant. Quand un animal ou un humain est soit vivant, soit mort, la mort végétale, elle, est toute relative, un mode d'être radicalement différent qu'elle place au cœur de sa réflexion. Car pour reprendre le titre du second essai dont il sera question ce soir, il y a plusieurs manières d'être vivant. Manière d'être vivant, c'est le dernier livre de Baptiste Morisot, publié chez Actes Sud. Le philosophe et pisteur, adepte de la recherche-action, nous entraîne sur les traces des loups, entre carnet d'expédition et enquête sur notre animalité, pour montrer comment le concept de nature contribue au bouleversement écologique. Et en studio pour débattre ce soir, Catherine Portevin de Philosophie Magazine. Bonsoir Catherine.
Bonsoir.
Et Thibaut Sardier de Libération. Bonsoir Thibaut.
Bonsoir.
Alors je vous propose de commencer par le livre de Florence Burga, « Qu'est-ce qu'une plante ?», sous-titré « Essai sur la vie végétale » et publié donc au Seuil dans la collection « La couleur des idées ». Florence Burga est philosophe, directrice de recherche à l'Institut National de la Recherche Agronomique et travaille sur la condition animale dans la société industrielle, sur le droit animalier. Elle mène aussi des recherches anthropologiques afin de répondre à cette question, comment expliquer qu'une société comme la nôtre, policée et tranquille, puisse encore accepter des lieux retirés où l'on égorge des animaux pour les manger, alors que les ressources alimentaires dont nous disposons nous en dispensent ? Une réflexion qui a donné son précédent ouvrage, L'humanité carnivore. Florence Burga est une végétarienne revendiquée et cela nourrit sa réflexion. Ici, elle réagit à un argument opposé de plus en plus régulièrement à ceux qui refusent de se nourrir de viande par refus de participer à un système qui repose sur la souffrance animale et la souffrance des plantes. Alors, qu'est-ce que tu en fais ? Le fameux cri de la carotte est ainsi opposé à la fois ironiquement et sérieusement aux défenseurs des animaux, un mouvement qui a pris de l'ampleur avec le succès d'ouvrages qui ont montré que la vie végétale était une vie en réseau, qu'on y trouverait de la communication, de l'entraide et même une volonté. Le best-seller de Peter Volleben, La vie secrète des arbres, est bien entendu en ligne de mire, mais aussi L'apologie du carnivore de Dominique Lestel ou La vie des plantes, une métaphysique du mélange d'Emmanuel et Coccia. Pour Florence Burga, ça ne fait pas de doute, cette indiscrimination de tout le vivant est une erreur. On ne protège pas les plantes pour les mêmes raisons qu'on protège les animaux. C'est ce qu'elle va essayer de démontrer dans cet essai, Catherine Portevin.
Oui, effectivement. Et elle le fait avec les instruments les plus classiques de la métaphysique et de la philosophie. Florence Burga est très difficile à classer, par exemple, dans la pensée écologique. Elle s'y inscrit pas vraiment. C'est ça qui, d'ailleurs, fait à la fois son originalité et sa position parfois un peu en porte-à-faux. Elle a vraiment défendu le véganisme ou plutôt attaqué le meurtre des animaux avec des arguments qui sont les arguments de la philosophie classique, morale. Elle est très proche d'Elisabeth de Fontenay, par exemple, qui peut avoir le même type de réflexion et avec vraiment un argumentaire qui est très intéressant et qui marque des points dans le débat, mais qu'on peut trouver un peu hors sol par rapport aux grandes préoccupations écologiques. Néanmoins, c'est sa réaction à la question du végétal est très intéressante parce qu'effectivement, il y a comme un air du temps. Parce que cet intérêt pour la plante passe aussi bien par des grands best-sellers comme celui que vous avez cité, le Wohlleben, qui veut dire d'ailleurs bien vivre, ce nom. Donc qui lui parle à partir d'une expérience de garde forestier. C'est pas du tout des sciences sociales, c'est pas du tout de la science non plus complètement. Mais aussi beaucoup dans la philosophie, donc dans le champ qui la concerne, et en particulier avec Emmanuel et Coccia, donc que vous avez cité, qui avait fait un petit livre que moi j'avais trouvé magnifique et qui s'appelait La vie des plantes, mais qui, c'est vrai, développait avec ça une sorte de métaphysique du grand tout, du tout et dans tout, une sorte de cosmologie, d'une nouvelle cosmogonie du monde attachée à la plante, à ses racines, à sa tension vers le ciel. Voilà. Florence Burga ne se laisse pas attraper par ce genre de choses et elle a le réflexe que je trouve tout à fait louable, c'est son boulot, d'une certaine manière, de philosophe, de remettre de la distinction là où on a tendance à tout mélanger. Alors évidemment, on pourra lui reprocher, d'ailleurs ça sera certainement un débat dont on pourra reparler, tout en dénonçant, elle a dénoncé avec beaucoup de force, la fameuse pensée dualiste dont nous sommes héritiers, qui fait le partage entre l'homme et l'animal, entre
l'homme et la nature,
l'homme et la nature, donc l'homme et l'animal, renvoyant l'animal à la nature. Donc contre ce dualisme, elle a défendu avec beaucoup d'arguments la question du destin commun, de l'animalité, l'homme n'étant un animal comme les pas comme les autres, mais parmi les autres. Là, évidemment, sa démarche est quand même de restituer un grand partage, une sorte de dualisme entre le végétal et l'animal. Alors on pourra rentrer dans les détails dans la manière dont elle s'y prend, mais je trouve quand même que sa pensée est très stimulante et surtout elle est extrêmement solide sur le plan philosophique, très référencée. On se rend compte d'ailleurs que tous les grands philosophes ont pensé la question du végétal depuis Aristote, mais aussi Hegel, Schopenhauer, bien sûr les grands penseurs de la vie, Bergson, Guilhem. Je ne veux pas faire du name dropping, on s'en fiche.
La bibliographie est déjà assez dense dans ce livre de Florence Burga, Qu'est-ce qu'une plante, Catherine Portevin, mais en effet ça vient d'être dit, c'est un vrai ouvrage de philosophe, Thibaut Sardier, qui nous parle épistémologie, ontologie, morale, c'est les trois axes autour desquels tourne la réflexion de Florence Burga sur qu'est-ce qu'une plante, et en effet qui, contre le dualisme en quelque sorte de l'homme contre la nature, restitue un autre forme de dualisme qui serait l'animal, qui comprendrait à la fois l'homme et les autres espèces animales, et le végétal, avec cette question de savoir qu'est-ce que c'est que vivre et mourir, qu'est-ce que c'est que souffrir, qu'est-ce que c'est que d'avoir une intention.
Oui, et c'est pour ça qu'on pourrait presque rebaptiser ce livre et se dire que c'est peut-être plutôt qu'est-ce que n'est pas une plante comme projet de recherche, puisque vous l'avez dit Catherine, il y a une focalisation sur le déminage de ce discours ambiant qui voudrait qu'un arbre par exemple, parce qu'on peut y voir une figure humaine, des branches comme des bras, le tronc qui serait le corps, etc., on puisse très facilement par analogie ou homologie, c'est les deux des termes qu'elle développe, voir une forme de proximité qui, dit-elle, n'existe absolument pas, puisque, alors ça elle ne cesse de l'affirmer, elle le reprend du travail de Francis Allais, le végétal est une altérité radicale, notamment parce que ce sont deux formes de vie totalement différentes. La vie humaine, la vie animale forme un tout cohérent qui a la capacité par le mouvement de se détacher de son environnement, alors que le végétal constitue une vie ouverte, jamais refermée sur elle-même, puisque vous prenez une branche d'un arbre, vous la replantez, vous faites une greffe et la vie continue. Donc il n'y a pas cette fermeture dans le temps, pas de naissance, pas de mort chez la plante, et dans l'espace, puisque l'animal a une mobilité que la plante n'a pas. Mais finalement, la limite, ou en tout cas là où on reste peut-être un peu sur sa fin, et effectivement cette partie-là est extrêmement stimulante et oblige un peu à faire attention à la façon dont on lit parfois avec un peu trop d'enthousiasme ces livres qui nous disent que les plantes sont vivantes comme les hommes, c'est qu'elle laisse de côté un petit peu peut-être ce qui fait la particularité de cette vie. On voudrait, même si elle nous montre que c'est difficile, qu'on peut pas se mettre à la place des plantes, mais de comprendre un peu mieux comment fonctionne cette vie des plantes. Et puis surtout, qu'est-ce que nous, humains, dans ce contexte d'interrogation sur la crise écologique, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour l'instant, elle consomme un petit peu cette rupture entre l'animal et la plante, mais sans nous dire le rôle que nous, humains, pourrions jouer, comment nous pourrions considérer ce vivant végétal. Un dernier élément qui me semble important, et peut-être aussi en entre-deux, elle critique Volbène beaucoup sur cette question de ce grand réseau de vie des plantes et des champignons qui communiquent sans cesse, qui forment des communautés. Elle dit elle-même, cela dit, que cette vie en réseau, elle existe aussi, simplement elle l'analyse en termes de stimulus ou de stimuli plutôt que s'échangent comme de simples signaux le vivant. Mais finalement, plutôt que de rester à l'échelle d'un arbre, d'une herbe, d'une feuille, comment est-ce qu'on peut essayer de donner du sens à ce réseau végétal qui se constitue? Moi, j'ai pas tout à fait trouvé la réponse à la question dans le livre.
Avec une approche qui est la hantise à la fois des producteurs radiophoniques et des étudiants en philosophie, des producteurs radiophoniques, parce que c'est très difficile à dire, Catherine Portevin, une approche phénoménologique, c'est-à-dire que pour Florence Burgas, ce qui fait la distinction, c'est la question de savoir si les plantes ont un monde et comment elles sont au monde et comment elles sont déterminées finalement par le fait qu'elles sont fixées. Évidemment, elles ne sont pas en mouvement et c'est ça qui va aussi articuler sa réflexion, c'est-à-dire que les plantes ont une vie virtuellement illimitée, soit parce qu'elles ne meurent que sous certaines conditions, soit parce qu'elles reproduisent en permanence des bouts d'elles-mêmes, et surtout elles sont fixées, voilà, elles ne sont pas en mouvement.
Elles sont tellement pas en mouvement que du coup elles posent cette question qui est assez vertigineuse et qui peut être amusante à dire comme ça, c'est où situer le siège du soi de la plante ? Ça, c'est une question très
importante. Ce n'est pas facile
importante.
À dire non plus. On dirait
un exercice pour... Qui sont ces serpents qui sifflent voilà. Sur nos têtes. Où situer le siège du soi de la plante? En gros, elle tire... Enfin, la phénoménologie, ça consiste à aller au fond, d'une certaine manière, de la description, mais bien qu'elle dise que la description ne suffise pas, mais de l'observation des formes. Et effectivement, cette question de l'immobilité de la plante, de sa fixité, fait ce qu'a dit un peu tout à l'heure Thibault, effectivement, que la rupture entre la plante et son milieu n'existe pas. Enfin, donc, il n'y a pas d'autonomie possible de la plante comme on peut la penser pour un animal, quel que soit l'animal, qui, d'une certaine manière, comme dit Florence Burgas, ne coïncide jamais complètement à lui-même, puisqu'il est toujours en mouvement. Alors, il y a des choses qui sont assez intéressantes, des remarques qui sont intéressantes sur la question de ce qu'implique cette fixité, notamment que l'être immobile n'a pas besoin d'être centré sur lui-même. Au contraire, il est effectivement une forme constamment ouverte. Mais du coup, existe-t-elle ? Voilà, c'est là on arrive sur la question plus, qui est vraiment la question ontologique. Qu'est-ce que c'est qu'une plante ? Est-ce que simplement même ça existe ? Alors ça, c'est des jeux, peut-être ça a l'air tout à fait...
trivial, oui.
Trivial, mais enfin, il y a une noblesse du jeu d'esprit qui est stimulante pour... C'est comme des expériences de pensée. Est-ce qu'une plante existe, finalement ? Elle y répond avec beaucoup de doutes. Alors c'est vrai que la question de la grande question que je trouve vraiment intéressante qui court dans son essai, mais à laquelle elle répond d'une façon un peu trop radicale, c'est qu'est-ce que la vie ? C'est une grande question qui traverse toute l'histoire de la philosophie, mais pas seulement, mais qui est beaucoup réactivée aussi aujourd'hui. Je me souviens même d'une discussion une fois avec Hubert Reeves qui s'enthousiasmait de la question de la découverte de l'eau sur Mars, etc. Et qui disait, mais voilà, est-ce qu'on va trouver de la vie et surtout, notre idée de ce que c'est la vie va être complètement bouleversée. Peut-être qu'on a une fausse idée de ce que c'est que la vie. Il suffit pas forcément de l'eau, il faut aussi d'autres choses. Là aussi, elle met une distinction très très forte entre la vie qui se contente d'être une vie, c'est-à-dire, je ne sais plus quelle expression elle a sur la vie végétale qui est une vie non inquiète, une vie qui ne connaît pas la mort, comme l'a dit Thibault. Donc, la vie inquiète et mortelle qui est le destin des autres êtres vivants. Alors, moi, je trouve que le fait que il n'y aurait pas de mort végétale. Bon, d'abord, ça peut se discuter un peu. Et de toute façon, ça ne signifie pas qu'on n'est pas à protéger le végétal. Et c'est vrai que là, c'est pas parce que le végétal ne meurt pas au sens métaphysique, au sens phénoménologique, qu'il n'est pas en danger. Elle ne veut pas le penser. Enfin, c'est pas son objet.
Ça va plus loin que ça. Rappelons que être vivant, c'était le thème de la dernière Nuit des idées organisée par l'Institut français. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un thème qui est dans l'air du temps, comme vous l'avez dit, Catherine Portevin, Thibault Sardier. C'est même pas que Florence Burgas ne veut pas penser cette question de la protection de la nature. C'est qu'elle y voit, un contre-feu. Elle y voit aussi dans le biocentrisme. Alors, ne faisons pas de Florence Burgas. Ce serait tout à fait injuste. Quelqu'un qui voudrait absolument à toute force détruire la nature au nom de la défense des animaux, ça n'aurait pas de sens. Mais c'est vrai qu'elle a un regard très très critique sur ce qu'elle appelle le biocentrisme, sur une certaine écologie, sur la défense des plantes comme nouveau contre-feu des carnivores, c'est-à-dire contre la défense des animaux. C'est-à-dire que si si défendre les animaux, c'est comme défendre les plantes, et ben ne défendons personne, puisque de toute façon, il va bien falloir se nourrir. C'est un petit peu ça que critique et qu'analyse Florence Burgard.
Disons qu'elle a pour objectif de fonder cette protection, on va dire, de la nature, pour faire vite, sur des fondements philosophiques valides. Et que pour elle, dans l'idée de le fonder sur la souffrance du végétal, par exemple, ne peut pas être considérée dans cette catégorie. D'ailleurs, elle le dit, point n'est besoin de personnaliser les plantes pour partager cette répugnance sous-entendue à la destruction de la forêt et appeler à respecter la beauté du monde. Donc, pour le coup, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que, effectivement, la destruction de la forêt amazonienne, la déforestation, elle n'y souscrit évidemment pas du tout. Après, effectivement, elle s'attaque à la façon dont nous concevons les éthiques environnementales, celles qui vont fonder aussi le droit et le statut moral, juridique des entités naturelles, qui est un peu la nouvelle grande façon de les protéger. Donc effectivement, elle distingue deux grandes éthiques environnementales. Les éthiques biocentrées, qui donnent une valeur morale à chaque entité vivante. Donc là, son jugement est simple. Elle dit c'est impossible, on ne peut pas considérer chaque élément vivant jusqu'à l'échelle de la cellule. Ça n'a pas de sens, c'est beaucoup trop vertigineux pour que ce soit vraiment efficace ou philosophiquement pertinent. Ensuite, celle qui a été le plus investie dans le domaine du droit, les éthiques environnementales éco-centrées, celles qui s'intéressent au vivant comme constituant un système. Et c'est là, finalement, quand on dit protéger une forêt, donner un statut juridique à une rivière ou à un bassin versant, c'est ce domaine-là qui est investi. Alors, elle a deux contre-arguments. En tout cas, moi, j'en ai repéré deux principaux. D'abord, la valeur esthétique. Elle est quand même assez sceptique sur l'idée que souvent aussi on présente comme cette beauté du paysage ou d'un écosystème. Est-ce que ça suffit vraiment à fonder une protection? Rien n'est moins sûr. Et la deuxième chose, c'est que à ses yeux, et là, je ne sais pas si on peut être totalement, si je la suivrai jusqu'au bout, en tout cas, c'est qu'elle elle dit que cette protection de la ressource est toujours sous-tendue par des raisons anthropocentrique, sous-entendu, bah oui, on va protéger des écosystèmes maritimes, mais pour être sûr que l'homme ne manque jamais de poissons. Alors certes, il y a toujours cet intérêt humain, ce besoin. On verra tout à l'heure avec Morizo que quand on essaie de penser de la relation avec d'autres êtres vivants, l'intérêt ou les besoins de l'humain ne sont jamais niés. Mais est-ce qu'ils sont si prépondérants que ça? Est-ce qu'on ne peut pas s'en affranchir un peu plus que Burgard ne laisse penser? À mon avis, là, voilà, c'est un peu plus ambigu qu'elle ne le dit.
Oui, Catherine Portevin, on va terminer là-dessus parce qu'il ne nous reste pas longtemps. Dans ce livre de Florence Burgard, il y a vraiment cette question de la morale, c'est là-dessus que ça se termine, avec cette idée selon laquelle il faut absolument distinguer le mal et la souffrance. C'est-à-dire, c'est pas le mal ne se réduit pas à la souffrance.
Non, ça c'est effectivement un argument très très fort et c'est ça qui engage aussi la réflexion juridique. C'est-à-dire que c'est au nom de la souffrance qu'on fait du droit à protéger contre la souffrance ou contre la cruauté humaine. C'est une des bases peut-être des droits, y compris des droits de l'homme, mais pas forcément au nom du mal qui est assez difficile à définir. C'est-à-dire que abattre une forêt c'est mal, on ne peut pas pour autant dire que l'arbre souffre. C'est ce qui fait la ligne de partage et qui justifie que on ne puisse pas inscrire une déclaration des droits de l'homme, des droits de l'arbre, même si ça, il y a eu des tentatives récemment, y compris à l'Assemblée nationale, de rédaction d'une déclaration des droits de l'arbre. Alors, sur ces excès, sur ces questions juridiques, on peut discuter, mais d'une certaine façon, ce que je trouve assez compliqué dans son argumentation, c'est que cette question de la souffrance animale, qui a été vraiment au cœur de la cause animale et de la question des droits des animaux et de la protection des animaux, elle est de toute façon aussi tout à fait sujette à caution. Et d'ailleurs, elle a toujours été, non pas qu'on doute que les animaux souffrent, mais on doute que ça puisse être générateur de droits pour autant. Et ça, c'est quelque chose qui est la question de la sensibilité comme étant ce qui discrimine réellement le monde animal du monde végétal, même si c'est empiriquement, et phénoménologiquement vrai, je ne suis pas sûre que ce soit un argument si fort que cela pour écologiquement. Enfin, est-ce que la question de la souffrance est la seule valide pour sauver la planète d'une certaine manière? Elle, il y a quand même, c'est ça qui peut-être affaiblit un peu sa cause, c'est qu'elle défend sa cause, quoi, et que en dernier ressort, ce qu'il faut sauver, c'est sauver les animaux au sens de il faut sauver la vie inquiète, mortelle et tragique qui est le destin animal, humain compris.
En fait, tout simplement de sa part aussi, le refus d'entrer dans le débat écologique ou écologiste qui, du coup, nous laisse parfois un peu sur la faim parce qu'on voudrait y trouver des pistes de réflexion immédiates pour ce genre de débat et c'est pas l'objet du livre.
Ah bah si c'est pas l'objet du livre, allons le lire pour y trouver autre chose. Florence Burga, qu'est-ce qu'une plante ? Essai sur la vie végétale, c'est donc publié aux éditions du Seuil.
France Culture, Avis Critique,
Raphaël Bourgois.
Je suis grande gueule, je suis vandale, je suis pointé du doigt s'il y a scandale. J'égorge n'importe qui pour 600 balles. Je rappe sur l'assemblée, j'applaudis, je suis trop sentimental. Partout je vois des gens qui m'en veulent, je te souris rapidement, je te pisse dessus quand on s'engueule. Je n'aime que mes semblables, je fréquente qu'un seul club, la bande d'associables, je suis pas mon immeuble. Je suis bête, brutale, borné, buté, je vous souhaite que du mal, je suis mal éduqué. J'avais que d'un quand j'ai débuté, aujourd'hui toujours que d'aller. Mes dettes ont décuplé, tu m'invites, je t'explique, je suis pas un bon plan. J'arrive bourré en retard avec mon clan. Je viens de te faire perdre ton temps. Je veux me cacher maintenant et cacher, je me bats en courant. N'essaie pas de m'approcher. N'essaie pas de m'approcher. N'essaie pas de m'approcher. N'essaie pas de m'approcher. Crapule, crac, crac, crapule, crapule, crac, crac, crapule, crapule. L'ai pas dit, oui oui, je compte te faire la misère et surtout si t'es gentil. Si je t'ai parlé, je t'ai menti. Tout ce qui te plaît, moi je le plie, je le cache, l'anéantis. J'aime pas quand tu m'appelles, je m'en tape de ta vie ou d'avoir de tes nouvelles. Je suis pas ton ami fidèle. L'occasion de t'enculer, je n'attends qu'elle. Ma gueule, c'est l'essentiel. Je suis sans cœur, bluffeur, vantard, troussard. Je mets que des kicks par derrière dans la bagarre. Chez toi, je fouille tous les tiroirs. Tu me cherches, il est trop tard. Tes comptes pour la plupart. Je veux ta part, je veux ta thune, je veux la part, je veux la gloire. Et je ferai aucun effort pour la voir. Menace à la machette ou au rasoir. Je te délaisse, tu me détestes, je suis une star chez des bâtards. C'est moi. Crapule, crac, crac, crapule, 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 crac, crac, crapule, crapule, crac, crac, crapule, crapule, crac, crac, crapule.
Vous l'aurez compris, le titre c'est Crapule par Kazé avec le groupe House Gang qui est sorti hier. Voilà, ça remet un petit peu d'énergie dans cette émission qui ne s'en renommait pas toutefois, deuxième temps de l'émission. Je vous propose de nous pencher maintenant sur le livre de Baptiste Morisot, Manière d'être vivant, enquête sur la vie à travers nous, publié aux éditions Actes Sud dans la collection Monde Sauvage. Baptiste Morisot est philosophe, il est aussi pisteur, on y reviendra. Il est maître de conférences à l'université d'Aix-Marseille et l'auteur déjà de deux essais sur le même sujet. Diplomate, cohabité avec les loups sur une autre carte du vivant. C'était chez Wild Project en 2016 et Sur la piste animale chez Actes Sud déjà en 2018. Ce sujet, quel est-il ? Comment imaginer une politique des interdépendances qui allie la cohabitation avec des altérités à la lutte contre ce qui détruit le tissu du vivant ? Ça a l'air compliqué comme ça, mais on va l'expliquer. Pour Baptiste Morisot, comme il le dit dès la première page de Manière d'être vivant, la crise écologique est une crise des sociétés humaines, capable de mettre en danger la qualité, voire la possibilité même de nos existences. Une crise du vivant sous la forme d'une sixième extinction des espèces, mais c'est aussi, et c'est ce qui l'intéresse, une crise de nos relations au vivant, une crise de la sensibilité. Petit à petit, nous avons laissé s'appauvrir ce que nous pouvons sentir, percevoir, comprendre, et donc tisser comme relation à l'égard du vivant. La cause est simple, elle est pointée du doigt par tout un courant de pensée depuis Philippe Descola, et nous en avons déjà parlé. Nous avons pris pour habitude de considérer tout ce qui n'était pas humain comme appartenant à la nature. La Terre se divise donc entre une espèce et 10 millions d'autres. Elle impose aussi d'aller puiser à la source de la philosophie des affects qui interroge la position du chercheur et l'écriture de Baptiste Morisot. C'est là que l'expérience du pisteur intervient par l'attention qu'il prête aux signes, à sa faculté à les interpréter. Il peut nous guider pour transformer le champ de l'attention, le transposer vers ce qui importe. L'essai est composé de 6 textes de nature différente mais qui ont en commun leur dimension poétique, Thibaut Sardier.
Oui, alors vous aviez peur qu'on manque d'énergie. Alors pour le coup, c'est un livre qui en regorge puisque Baptiste Morisot, vous l'avez dit, est non seulement philosophe mais aussi pisteur de loups. D'ailleurs, les deux positions sont un peu les mêmes d'une certaine façon. Et il nous raconte comment il part la nuit dans des pentes enneigées, parfois se fermer sous un petit tas de neige pour essayer de voir les loups au plus près. Donc il raconte par le menu, dans le détail, toutes ces expériences et on les vit véritablement avec lui. On se voit la nuit dans le froid en train d'essayer de percevoir la meute qui passe le long d'une crête, de trouver la piste. Et c'est assez réjouissant aussi du point de vue de la lecture. Alors après, effectivement, le point de départ, c'est cette idée de crise de la sensibilité qui pour lui est finalement le symptôme, le mal qui fait qu'on a perdu cette relation au vivant, qu'il définit comme un appauvrissement de ce que nous pouvons sentir, percevoir, comprendre et tisser comme relation à l'égard du vivant. Et c'est effectivement en tissant des relations, nous dit-il, que nous allons retrouver cette compréhension, cette façon de cohabiter tout simplement avec le vivant qui nous entoure. Alors par rapport à ce qu'on a dit autour de Florence Burga, il contourne assez facilement l'obstacle puisqu'en se focalisant sur la question des loups, il investit le champ de l'animal avec lequel justement cette capacité d'observation, de projection de l'humain pour essayer de comprendre le comportement animal est facilitée par la proximité qu'il peut y avoir. De temps en temps, il fait une petite excursion du côté de la projection vers le végétal, mais c'est beaucoup plus discret et il fait bien attention à ce qu'il dit sur le sujet. Reste qu'on retrouve aussi un certain nombre de ces problématiques. Poser des relations, envisager des relations, c'est très bien, mais comment faire lorsqu'on se retrouve avec un animal dont on ne comprend pas très bien les comportements, avec lesquels il est difficile de communiquer? En fait, le livre tisse sans cesse ses problèmes, notamment il y a de très belles pages sur la façon d'essayer de communiquer. Il pousse le cri du loup, il entend des réponses, il ne sait pas très bien ce que le loup a compris, il ne sait pas très bien si le cri qu'il entend en retour est véritablement une réponse ou pas. Et puis il y a même des expériences de réponses un petit peu inattendues. Et c'est là le nœud du problème. Cette idée de tisser des relations avec le vivant doit aussi accepter cette part d'inconnu, d'inconnaissable. Et pour lui, finalement, la position la plus prolifique pour retisser ces liens, c'est celle où on n'est pas totalement certain de ce qui se passe dans le camp d'en face, d'une certaine façon, et qu'on est toujours dans un inconnaissable à réinterpréter sans cesse des hypothèses pour essayer justement d'occuper la meilleure place possible en tant qu'humain face à l'ensemble des écosystèmes, disons.
Réinventer nos relations au vivant, c'est donc au cœur, Catherine Portevin, de ce livre de Baptiste Morisot, et qui, pour cela, rappelons-le, il est philosophe et pisteur, et le philosophe s'inscrit dans une tradition qui est celle de ramener la question des affects dans cette relation au vivant.
Pas seulement les affects, le terrain. Moi, j'aime bien cette façon de défendre une philosophie de terrain. Il se rattache aussi à Deleuze qui parlait de cela, de la question de l'invention des concepts. La philosophie s'est inventée des concepts, mais il ne s'invente pas depuis le ciel, il s'invente depuis le terrain. Et ça, je trouve que c'est très précieux chez Morisot. Il essaye vraiment de creuser le terrain des philosophes, qui n'est pas le terrain des éthologues, qui n'est pas le terrain des sciences sociales, qui est vraiment quand même c'est essayer de une pensée qui soit gagée sur l'expérience et qui soit gagée sur le réel. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Et pour lui, ça passe par l'écriture aussi. Il y a quand même une réflexion très forte sur l'écriture, sur la question de comment parler. C'est très très important à la fois dans son style. Il y a un grand plaisir de lecture parce qu'il y a du récit, il y a un art du récit formidable. Mais il y a aussi toute la question du langage. Elle est très très importante aussi parce que comment parler avec les loups, comment parler aux loups
et comment
parler des loups. C'est une position qu'il appelle diplomate. On va certainement y venir dans le détail, mais qui est aussi celle du traducteur essentiellement. Pister, dit-il, c'est apprendre à penser, mais c'est surtout pister. Ça n'est pas lire, c'est traduire, c'est interpréter, c'est essayer de trouver, s'approcher de l'intraduisible, comme dit Barbara Cassin quand elle essaye de montrer tous les flottements de sens et l'ouverture des sens qu'il peut y avoir à la traduction impossible de certains concepts dans les langues différentes. Alors moi je trouve que c'est un livre assez merveilleux parce que ce serait trop facile de l'opposer à celui de Burga, de Florence Burga, parce que je pense qu'en réalité ils se complètent, ils résonnent l'un avec l'autre sur certains plans, mais c'est vraiment une question de style philosophique qui n'a rien à voir. Et je crois que ce que j'aime chez Morisot, c'est que c'est une pensée pour. La pensée de Florence Burga est une pensée contre. Elle est centrée sur la nécessité d'argumenter, de contre-argumenter. Enfin bon, on est vraiment dans la grande dialectique classique. Avec Morisot, il y a quelque chose de penser pour. Et sur cette question du dualisme, qui était précisément une des choses qui était un peu ambiguë, disons, chez Florence Burga, je trouve que lui, tout en défendant bien sûr une sortie de ce fameux dualisme...
Oui, il s'inscrit dans la tradition de Philippe Descola et...
Il est quand même très critique sur la question de ce retour de l'animisme que Florence Burga critique aussi à bon droit, en disant on va pas tout d'un coup se mettre à penser comme des Indiens d'Amazonie. Il y a quelque chose d'un peu de fétichiste aujourd'hui, cette découverte de l'animisme en Occident. Mais surtout, il dit, par exemple, on va dire que l'homme et l'animal ne sont pas des étrangers l'un à l'autre, qu'on dépasse ce dualisme homme-animal. Mais c'est pas pour dire que du coup l'homme n'est rien. Voilà, on peut dire que juste l'homme est un autre animal, où on peut parler de l'homme et les autres animaux. Et il parle très bien de ce petit mot « autre » qui finalement permet d'intérioriser une petite vérité tranquille de plus qui va rejoindre la rotondité de la Terre, l'héliocentrisme, l'évolutionnisme. Alors il ajoute évidemment la toxicité du néolibéralisme et la démocratie comme pire modèle politique à l'exception de tous les autres. J'aime bien cette manière d'avancer en cherchant juste à petit à petit imposer des petites vérités tranquilles.
Alors en pistant les loups, Thibaut Sardier, vous l'avez dit, de façon avec une écriture véritablement qui nous entraîne, hein. On est dans le Vercors à ski avec lui, on interprète les traces, on apprend avec lui qu'il faut regarder à la fois leur taille, leur espacement, qu'un loup qui est à l'arrêt, qui observe, laisse une trace qui donne une forme de L dans la neige, enfin voilà, donc il y a ce plaisir-là à la lecture, mais comme l'a dit aussi Catherine Portevin, on est sur la forme d'une recherche action, c'est-à-dire que tous ces moments ne sont pas juste là pour ce plaisir de lecture, mais aussi parce qu'ils fondent une réflexion, et une réflexion qui consiste en quoi ? Qui consiste à reconstituer ce qu'il appelle des chemins de sensibilité.
Ouais, et alors je trouve que ça ressort le mieux dans la fin du livre quand il nous raconte comment il observe à la caméra infrarouge ou thermique les relations entre le troupeau d'ovins qui est en train de pâturer, les chiens patous qui les protègent et puis les meutes de loups qui sont en capacité d'attaquer. En fait, il nous montre qu'une observation fine déconstruit complètement les positions un petit peu caricaturales que l'on projette, soit selon qu'on sera défenseur du loup ou défenseur de l'éleveur, puisqu'il met en évidence, alors d'abord une expérience assez intéressante où à la caméra on n'arrive pas très bien à discerner quel est le type d'animal qu'on est en train d'observer, et donc on ne sait pas si c'est le mouton, le chien ou le loup, et donc il dit finalement il n'y a pas de position caractéristique de chacun de ces animaux. Le prédateur ne passe pas sa vie à attaquer et inversement le chien ne passe pas sa vie à défendre et le mouton à fuir. Même qu'on observe des moments où la cohabitation existe, c'est-à-dire que le loup arrive, le patou n'attaque pas parce que le loup vient presque en ami, si on peut dire. Il le dit, enfin Morisot ne le décrit pas comme ça, mais c'est un peu comme ça qu'on a envie de le lire. Et donc il faut là aussi rester toujours dans un contexte d'incertitude sur la nature réelle des relations qui peuvent se nouer entre les différents groupes d'animaux. Et ensuite Morisot invite évidemment à essayer de les comprendre et d'avoir un dialogue avec les différentes espèces. On montre qu'on peut même faire rentrer dans ce jeu de l'interrelation le pâturage en tant que tel, puisque la bonne gestion, celle qui garantit le meilleur équilibre entre tous les acteurs, c'est aussi celle où on va éviter de faire en sorte que le troupeau pâture tout le temps au même endroit, sans quoi on détruit aussi la végétation, et que le déséquilibre s'instaure aussi par ce biais-là et rejaillit ensuite sur le loup, le chien, etc. etc.
Oui, ce que vous venez de décrire, Thibaut Sardier, c'est une vraie recherche qui est menée, qui s'appelle Canovis, qui est dirigée je crois par Jean-Luc Borelli, en tout cas c'est ce que j'ai noté, et qui consiste en effet à mettre des caméras à infrarouge, Catherine Portevin, pour essayer de comprendre ces comportements d'interaction entre troupeaux, chiens de défense et les loups, et repenser un petit peu par la philosophie, par l'éthologie et par différentes approches scientifiques ces relations. Et alors ce qu'apporte le philosophe Baptiste Morisot, c'est cette notion que vous avez déjà évoquée, mais je crois qu'en effet qu'il faut la développer, parce qu'elle était déjà présente dans ses précédents ouvrages, c'est cette notion de diplomatie à la fois entre l'homme et l'animal et des animaux entre eux.
Et des humains. Parce qu'il y a aussi la question du berger et la question du chasseur. Il parle du barbouillement moral. Je trouve que c'est une belle expression. C'est comme quand on est un peu barbouillé. C'est ce qu'il ressent après la scène qu'a décrite effectivement, enfin une des scènes qu'a décrite Thibault, où il voit, il a parlé avec une bergère qui s'identifie à ses brebis parce qu'elle-même est enceinte. Enfin bon, il y a tout un jeu avec un berger qui pleure en pensant à toutes ces brebis massacrées, au loup dont il admire la sauvagerie. Il y a toute une chose autour du loup et du chien qui rappelle presque la fable de La Fontaine, le loup et le chien, cette différence fort forte, mais cette parenté aussi forte entre le loup et le chien. Ce barbouillement moral, c'est de dire bon, ben bien sûr qu'on peut être comme lui aussi convaincu que c'est aussi le pastoralisme qui est en question et que le pastoralisme est aussi responsable d'avoir fabriqué des brebis ou des ovins qui sont beaucoup moins capables de se défendre puisqu'ils sont faits pour être domestiques et domestiqués. Voilà, et alors on peut très bien, d'une façon abstraite, du haut des concepts, avoir des idées, des idées de principe en disant c'est donc les bergers qui ont tort et le loup qui a raison. Donc lui parle de ce barbouillement moral pour dire que bon non, on ne peut progresser sur ces questions-là que par petits pas les uns vers les autres, et qu'il faut diplomate qui n'est pas forcément une personne, qui peut être le chien justement, qui est un peu entre le loup et la brebis, qui peut être un berger, qui peut être celui qui appartient à un camp mais qui est capable de comprendre l'autre camp. C'est la position qu'il essaye lui-même de tenir évidemment comme philosophe. Et ça, je trouve que c'est vraiment très profitable.
Oui, c'est ce qu'il appelle une diplomatie d'interdépendance, Thibaut Sardier.
Oui, il a une jolie phrase qui complète ce que vient de dire Catherine, c'est on est diplomate quand on se sent traître envers tout le monde. Et ça résume bien cette façon d'essayer de prendre en compte finalement l'ensemble des paramètres et de ne pas prétendre aussi détenir une réponse univoque. C'est ne se sentir traître envers tout le monde, c'est que on pense à la fois aux louveteaux qui ne reverront plus leur mère si elle a été tuée au moment d'une attaque, au chien ou au mouton qui a été blessé, au berger qui va effectivement perdre une partie de ses bêtes et puis ne peut-être pas gagner assez d'argent, etc., etc. Et comment composer avec tout ça? Ce qui est intéressant, c'est qu'il évidemment ne donne pas une réponse massive, mais il nous dit par contre que c'est en essayant d'avoir en tête tous ces éléments qui plus ou moins essaient de s'équilibrer, et qu'il faut essayer d'équilibrer, qu'on pourra peut-être élaborer la réponse la moins mauvaise possible. Et cette phrase du se sentir traître envers tout le monde, elle recoupe aussi un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure sur le langage, puisque la position du diplomate, c'est aussi celle de celui qui essaie de traduire les langages langage des uns et des autres, ce qui voilà évidemment n'est pas facile quand on est face à une abeille. Il s'agit aussi pour l'homme d'assumer, d'interpréter des signes, d'essayer de le faire peut-être de se tromper, de ne pas percevoir les bons signes, mais quitte à ne pas être tout à fait juste, à essayer de comprendre et d'interpréter ce qui se passe. Il dit par exemple, on pourrait très bien considérer que l'abeille nous parle, nous envoie un message quand elle ne pollinise plus parce que à cause du glyphosate ou autres produits chimiques, elle n'est plus en mesure de le faire. Ça peut très bien être on peut très bien interpréter le langage de l'abeille aussi de cette façon.
Alors on l'a compris, il y a aussi un discours politique, hein, évidemment, dans ce livre de Baptiste Morisot, Manière d'être vivant, une critique de la modernité. Même si Baptiste Morisot, il l'a dit et répété aussi sur cette antenne, notamment chez Sylvain Bourmeau à la suite dans les idées ou chez Olivier Gesbert à la grande table des idées, puisqu'il est passé dans ces deux émissions, je conseille à nos éditeurs d'aller l'écouter car il est aussi passionnant à écouter qu'à lire, il n'est pas anti-moderne, il se définit pas comme anti-moderne, c'est juste une approche, voilà, une critique de comment interpréter, comment philosopher, comment interpréter notre relation aux manières au pluriel d'être vivant à l'heure de l'effondrement. Il n'aime pas du tout le terme collapsologie, il préfère le terme effondrement, Catherine Portevin. Il nous dit, il faudrait trouver que l'effondrement du nombre des espèces, par exemple, devienne aussi insupportable que la monarchie de droit divin, par exemple, en faire un objet politique.
Oui, et c'est ça qu'il appelle les petites vérités tranquilles. Ça a l'air, pourtant, quand on parle de l'effondrement, ça n'a rien de tranquille.
Rien de tranquille, non.
Mais c'est faire progresser des prises de conscience, c'est-à-dire c'est ça, imposer petit à petit une autre façon de penser les choses, de les vivre. Donc la question politique chez lui, elle est quand même dans une recherche d'une troisième voie entre le militantisme brutal qui on sent bien qu'il ne partage pas forcément les formes et le climato-scepticisme brutal aussi, mais largement aussi brutal. Donc il y a quelque chose d'une petite sagesse pratique aussi, d'une question simplement d'un artisanat pratique, dit de lui Alain Damasio qui postface le livre, d'ailleurs une magnifique préface. C'est ça que je trouve vraiment intéressant, qu'on voit bien, c'est une pensée du bricolage, de la négociation, de l'avancée pas à pas, de la piste. Voilà, il faut pister, tracer des pistes, reconnaître, interpréter, toujours dans une perspective de la relation. Il y a quelque chose aussi qui est très très intéressant chez lui, c'est que on parlait de ça au départ, c'est-à-dire cette espèce d'éducation de la sensibilité à se sentir vivant. Qu'est-ce que c'est que se sentir vivant? Et ça, je trouve que c'est très beau dans son souci.
La question de la trace et du vif qui sont au cœur aussi en effet de l'œuvre romanesque d'Alain Damasio, l'auteur des Furtifs, de l'art du contrevent, de la zone du dehors, Thibaut Sardier, qui signe en effet une postface, mais vous voulez réagir à ce que vient de dire Catherine
Portevin.
Oui, parce
que finalement, qu'on soit militant ou pas, quelle que soit finalement la position qu'on occupe, la bonne manière peut-être d'être vivant, c'est de se sentir panimal, c'est-à-dire, comme pan, tout et animal, c'est-à-dire être un corps qui porte aussi toute une histoire de l'évolution, toute une histoire biologique. Lui, il parle d'une approche inséparée du vivant qui fait que on a en nous une sédimentation de dispositifs dans le corps produits par une histoire. Autrement dit, toute l'évolution se retrouve en nous. On est d'une certaine façon le produit d'un héritage issu des végétaux, d'autres animaux. Que c'est aussi un point de départ pour essayer de se projeter vers ce monde animal avec lequel on s'est quand même coupé depuis au moins un siècle. Et il a d'ailleurs un argument, alors qui est pas forcément celui qui m'a le plus convaincu, mais qui est quand même une belle image d'un exercice de biologie spéculative, où il dit que finalement, derrière nous qui nous prétendons maîtres et possesseurs de la nature, il y a toute une biosphère qui avance en même temps que nous, et que telle ou telle espèce détient peut-être à l'avenir les clés d'une évolution vers un meilleur accomplissement des valeurs qui nous sont chères aujourd'hui. Donc il faut aussi préserver les autres espèces, parce que ce sont peut-être elles qui détiennent la poursuite suite de notre travail philosophique actuel.
Et parce qu'il faut les considérer, j'aimerais terminer sur ce concept qui, puisqu'on l'a dit, hein, Baptiste Morisot s'inscrit dans une filiation deleuzienne, philosophe, et s'est créé du concept, et donc lui il crée le concept de parenté alien par exemple, Catherine Portevin.
Oui, ou l'alien familier, qui est familier au sens de fait partie de la famille. C'est encore la troisième voie, c'est-à-dire ni l'étranger absolu, ni non plus le même, qui sont les deux travers de la relation de l'homme avec la nature d'une manière générale. C'est une pensée de la frontière. De la frontière comme passage.
Baptiste Morisot, Manière d'être vivant, manière au pluriel, c'est donc aux éditions Actes Sud dans la collection Monde Sauvage.
L'instant critique.
L'instant critique, c'est la dernière séquence de cette émission. Catherine Portevin, Thibaut Sardier, les séquences où, pour nos auditeurs, vous leur suggérez des lectures peut-être ou autre chose. D'ailleurs, Catherine Portevin, c'est un livre que vous avez entre les mains.
Oui, mais c'est de la poésie.
Oui, mais ça vaut quand même comme un
livre. Ah oui. Oui, mais ça s'entend surtout, la poésie. Je voulais vraiment rendre un hommage à Frédéric Jacques Temple, qui est pour moi le plus grand poète vivant, et le plus grand vivant poète. Il a bientôt 99 ans, il vit toujours dans son Languedoc natal. Et à bien des moments, en lisant Baptiste Morisot, j'ai pensé à lui, j'ai pensé à cette poésie qui a quelque chose qui charrie toute l'histoire du vivant. Morisot dit « Nous avons tous, nous vivants, un corps épais de temps, fait de millions d'années, tissé d'aliens familiers et bruissants d'ancestralité disponible. » Je crois que la poésie de Frédéric Jacques Temple, qui a eu le prix Apollinaire en 2013, et dont l'œuvre est publiée entre, comme on dit, comme on entre en Pléiade, comme on entre en religion, on entre dans la grande collection de poésie Gallimard. Ça s'appelle « La chasse infinie et autres poèmes ». La chasse infinie, c'est aussi une histoire de pisteur. Et je crois que cette poésie de Frédéric Jacques Temple, qui semble venir du fond des âges, a une modernité aujourd'hui qui résonne très fortement avec la poésie, la forme de poésie ou le feu poète que cherche Baptiste Morisot. Je voulais juste vous lire un passage d'un poème qui s'appelle Aubrac, l'Aubrac, le plateau de l'Aubrac. Cet homme qui ressemble à la terre, peau d'écorce, chair d'aubier, jambes de racines torses, oint du musc des troupeaux, qui marche toujours sur les sentes où mugit la conscience perdue dans la rumination des siècles, c'est moi. Voilà.
Voilà, faut toujours laisser un petit silence après une poésie. Catherine Portevin. Et donc redites-nous.
Frédéric Jacques Temple, La chasse infinie et autres poèmes, édité par Claude Leroy dans la collection Poésie Gallimard en poche. Voilà.
Ben merci. Thibaut Sardier.
Et moi, ce sera une pièce à verser au dossier du débat sur l'enseignement supérieur et la recherche. Vous savez qu'avant-hier, il y avait un jeudi de mobilisation du monde des chercheurs.
Et des revues.
Des futurs chercheurs et des revues, exactement. Et là, le géographe Renaud Legois, on se refait pas un géographe, vient de publier sur le site HAL Archives Ouvertes un essai de rationalisation de sa propre activité du point de vue du temps de travail. Puisque les textes disent aujourd'hui que un enseignant-chercheur doit travailler, alors 192 heures équivalent TD, c'est assez technique. En gros, ça veut dire 1607 heures par an de travail théorique. Lui, pendant un an, il a rempli dans son Google Agenda tout ce qu'il faisait qui était lié à son activité professionnelle, en le classant selon ce que c'est du travail administratif, du suivi de la recherche de ses étudiants, sa propre recherche, ses cours, etc. Et il arrive à un total, alors si je ne dis pas de bêtises parce que j'écris pas très bien, mais je crois que c'est 2521 heures et demie de cours, c'est-à-dire 290 jours temps plein à 8 heures par jour, là où il n'y a en France que 261 jours ouvrables. Donc on voit légèrement le différentiel qui se creuse, avec évidemment une augmentation, explique-t-il, des tâches administratives qui est assez importante et qui est sans doute à prendre en compte dans ce temps où on dit que les chercheurs ne travaillent peut-être pas assez.
Et où on débat et on s'oppose dans le monde de la recherche à cette loi de programmation. Et évidemment, on va suivre ce dossier. Merci beaucoup Thibaut Sardier d'en avoir parlé. En effet, cette question de la loi de programmation des universités, de l'opposition qu'elle suscite dans les laboratoires de recherche, mais pas seulement. On va continuer de la suivre et merci à tous les deux d'avoir participé à Avis Critique. Avis Critique, c'est terminé. Attaché d'émission Catherine Denet, à la réalisation Vanessa Nadjar, à la prise de son Bernard Lagnel. Vous pouvez évidemment réécouter cette émission sur le site de France Culture, franceculture.fr. Vous pourrez la télécharger et vous abonner au podcast à la page d'Avis Critique. Dans quelques instants, Jukebox.
Thank you.